Je connais des familles,
et par famille c'est un terme générique, on pourrait dire aussi des amis, des couples, de petites communautés affectives, disons des familles,
où chacun le soir raconte sa journée,
ce qu'il a fait, qui il a vu, comment ça s'est passé.
Et je connais des familles, au contraire, où surtout pas, on ne va pas embêter les autres
avec ses propres affaires, ses difficultés, ses préoccupations. Et quand on se retrouve le soir, on parle de tout, sauf de son travail.
Laquelle de ces deux types de familles est la plus chrétienne ?
Dans un cas comme dans l'autre, du moins, c'est pas ça le critère. Le critère, c'est « est chrétienne » là où on écoute l'autre,
où on ouvre ses oreilles et son cœur, où on partage, où on se nourrit mutuellement de ses découvertes et de ses rencontres, quelles qu'elles soient.
Je connais des familles où chacun met ses biens, ses connaissances, ses relations au service des autres, où tout ce qui est à moi est à toi. Allez, si ça te plaît, tu le prends.
Tiens, va voir un tel de ma part, il va t'aider. Et je connais des familles, au contraire, où surtout pas. On répartit tout, tous les frais.
Où les parents font payer des loyers aux enfants, quand ils sont grands.
Où il n'est pas question d'avantage, de faveur particulière ou de passe-droit.
Mon parrain qui occupait un haut poste dans un grand organisme,
n'a jamais voulu faire quoi que ce soit
pour ses propres enfants, professionnellement, pour les aider à trouver même un stage ou un emploi.
Il aurait considéré que ça aurait été du népotisme. Laquelle de ces deux attitudes est la plus chrétienne ?
Celle qui est familiale au point d'être clanique, je ne vais pas dire mafieuse parce que c'est un autre sujet, vraiment presque tribal,
ou celle qui est plus légaliste,
celle qui donne la priorité à la famille,
ou celle qui donne la priorité à la justice. Le Christ a réconcilié les deux. Et il nous demande de tenir les deux, c'est même l'équilibre chrétien par excellence. De faire de la famille le lieu d'apprentissage et d'exercice de la justice, y compris sociale et même divine. La famille des enfants de Dieu par laquelle nous entrons au jour de notre baptême implique de se garder loin de tout ce qui est de l'ordre de l'injustice, de la débauche. Ou bien sinon, on risque de finir comme Judas qui s'enfonce dans la nuit.
Parmi mes amis, prêtres, mais pas seulement prêtres, médecins, avocats, informaticiens, plombiers, tous ceux qui peuvent être utiles. Vous voyez, les amis utiles qu'il faut avoir dans la vie.
Eh bien, même parmi eux, je sais à qui je peux demander un service,
disons plus clairement une faveur,
et ceux à qui je ne demanderai jamais rien pour ne pas les choquer,
parce qu'ils considéreraient que c'est un abus. C'est presque de la corruption affective.
Ils cherchent à séparer très clairement leurs responsabilités d'une part, leurs amitiés d'autre part.
Et ils estiment, dès qu'il y a une difficulté, qu'on aurait besoin d'un soutien, d'être appuyé ou quoi que ce soit, non, il faut faire la queue. Il faut respecter les procédures, vous savez,
les procédures. De quel côté Jésus aurait-il été ?
Jésus a pris ses distances avec sa famille.
Il a pris ses distances avec sa propre famille, sa parenté. Il a dit très clairement, sont pour moi un frère, une sœur, une mère, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et pourtant, il noue des amitiés extrêmement fortes.
Quand il apprend que son ami Lazare est malade, certes, il attend 2 jours avant d'aller là-bas et puis il dit, allez, on y va. Et ses disciples sont épouvantés. On dit, Seigneur, on cherche à te lapider, c'est au risque de ta vie. Il y va pour son ami, au risque de sa vie, le ramener justement à la vie et offrir la sienne. Et son ascension au ciel, ce que nous fêtons aujourd'hui, s'accompagne très clairement de la promesse qui est faite à ses disciples et à chacun d'entre nous, de nous aider, de nous secourir, de nous protéger. L'évangile de dimanche prochain, celui qui suit l'ascension, qui forme un tout avec cette fête, c'est sa grande prière sacerdotale à son Père, où il dit « Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, mes amis !» Le cardinal Newman, le bienheureux cardinal Newman, disait de la prière d'intercession, quand nous prions pour les autres, c'est la prière chrétienne par excellence. Le chrétien, c'est celui qui prie pour les autres. Eh bien, si nous intercédons pour eux, si nous intervenons pour eux, il est assez logique ou naturel de le faire également dans la vie civile, quand nous le pouvons, pas seulement auprès de Dieu. Et nous pouvons même penser que nous constituerons de véritables communautés paroissiales, réellement fraternelles, le jour où nous serons capables de mutualiser nos forces et nos talents, les uns au service des autres. Pas seulement de prier, mais d'intervenir, de s'engager personnellement, d'apporter son aide, son appui, de façon concrète. Alors il y en a certains qui vont dire, « Ah ben non, le christianisme, c'est pas du copinage. » Non, certes non. Et c'est vrai qu'il y a un risque. Il y a un risque d'abord que ces faveurs tournent en circuit fermé, qu'elles soient réservées à ceux qui sont capables de renvoyer l'ascenseur. Il y a un risque, le risque, même le danger le plus grave, c'est parfois de contourner le droit, de ne pas respecter la justice. Et puis le danger que nos relations en soient affectées et que ça devienne vraiment trop intéressé qu'on vienne à l'église non seulement pour la récompense au ciel, mais aussi pour un soutien fraternel. Si j'aborde le sujet, c'est qu'il faut que nous posions la question de savoir avec quelle humanité Jésus est entré dans la gloire. Son humanité avec laquelle il est entré dans la vie divine. Ce n'est pas avec le corps physique que nous connaissons, nous savons, c'est avec un corps glorifié. Mais il y est également entré, pour le dire assez trivialement, il y est entré avec son réseau de relations, avec tous ses amis. C'est ce que dit la prière eucharistique, ses parents et amis, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié. Et nous-mêmes, nous aurons part à la vie éternelle en proportion du lien qui nous unit au Christ. Nous entrerons au paradis par lui, avec lui et en lui, mais avec tous ses amis. L'humanité qui entre au paradis, c'est malheureusement pas toute l'humanité de l'histoire. Mais les amis de Jésus. On peut dire aussi ses serviteurs en pensant à la parabole des invités à la noce, où le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Et c'est notre tristesse chaque fois que nous venons à la messe, notre tristesse en pensant à ceux de nos familles, de nos amis qui ne viennent pas. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Nous sommes les amis du Christ, les amis de Jésus, si nous aimons ceux qui sont auprès de lui, si nous reconnaissons, si nous vénérons, nous recevons la Vierge Marie pour notre mère. L'apôtre Pierre, comme le chef des apôtres, le fondateur, la pierre sur laquelle il a fondé son Église. Les saints et les saints de tous les temps comme autant de guides et de frères aînés. Mes amis, dit Jésus. Pourquoi nous appelle-t-il mes amis et pas mes frères? Saint Paul dit qu'il est l'aîné d'une multitude de frères. Alors on va dire, parce qu'on peut être frère malheureusement sans être ami. Oui. Ça, toute la Bible le rappelle depuis Caïn jusqu'à aujourd'hui. Mais parce que dans la vie,
le point d'arrivée est plus important que le point de départ. Le point d'arrivée, c'est l'amitié divine. Le point de départ, c'est réellement notre fraternité, nos liens entre nous. Mais le point d'arrivée plus important, c'est l'amitié divine, véritable, l'amitié y compris de la justice et de la paix. On parle beaucoup ces temps-ci d'un entre-soi qui menacerait l'Église. Attention, l'Église, il y a un entre-soi. S'il existe, je peux vous assurer que c'est un entre-soi de surface. Au temps passé, qui font comme neige au soleil dès que les épreuves se présentent. Si j'en juge par le nombre de personnes, de fidèles, de paroissiens, de chrétiens, qui viennent me voir parce qu'ils sont abandonnés dès qu'ils connaissent des difficultés, lors d'un divorce, du chômage, de la maladie, c'est un entre-soi souvent du chacun pour soi. Vous vous souvenez de la parabole qu'on appelle de l'intendant malhonnête dont le Jésus fit l'éloge, le maître plutôt de la parabole fit l'éloge, en disant « Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. » Les fils de ce monde sont plus habiles, sont plus parfois plus fraternels entre eux. Bien sûr qu'il existe nombre d'œuvres et d'engagements remarquables, prodigieux. Ils sont très insuffisants. Il y a ici, pour les chômeurs, un club emploi cadre, où des bénévoles mettent leurs compétences justement dans l'aide de ceux qui cherchent un emploi. Moi, je rêve qu'il y ait également un accueil logement. Toutes les semaines, voire tous les jours, je rencontre des comme vous, le nombre de personnes qui ont ces difficultés de logement. C'est bien d'avoir, et heureusement que nous aurons une demeure dans les cieux. Mais c'est quand même nécessaire sur terre d'avoir un toit. Les disciples sont retournés à Jérusalem en grande joie. Ils savaient où loger. C'est là où ils étaient le jour de la Pentecôte. Eh bien, que cette fête de l'Ascension nous invite à faire comme ses disciples. À tourner fondamentalement nos regards vers les réalités d'en haut. En étant à l'écoute des appels de nos frères. Le pape François, ces dernières semaines, a repris une belle expression. Il dit « Ne regardons pas nos frères de haut en bas. » Pas de haut en bas. Il faut regarder vers le ciel avec cette espérance et rester à l'écoute proche de nos frères. Au ciel comme sur terre, les amis de Jésus sont nos amis.